Tu as choisi aujourd'hui dans ta chronique de nous parler du portrait en photographie.
Oui, alors ce soir on va parler de portrait. C'est le portrait en photographie, c'est une pratique qui est presque aussi ancienne que la photographie elle-même, puisque le premier portrait photographique est daté de 1839, c'est Robert Cornelius, et c'est assez original parce que bon, c'est un daguerréotype et c'est aussi le premier autoportrait. Alors c'est officiellement le premier, il y en a peut-être eu avant, mais on n'a pas de trace. Voilà. Donc cette pratique du portrait va se développer dans la photo très très rapidement. Et les photographes vont s'en emparer. Alors, il y a trois axes, hein, selon lesquels les photographes s'emparent du portrait. Le portrait posé en studio ou en lumière artificielle ou naturelle. Ce qu'on va appeler le portrait sur le vif, qui peut se rapprocher un petit peu du reportage. C'est ce qu'a très bien fait Pierre dans la séquence précédente. Et l'autoportrait.
Ouais. D'ailleurs, je dévoile un petit peu l'avenir de cette émission. Dans une prochaine émission, tu consacreras une chronique à l'autoportrait.
Oui, alors je laisse de côté ce soir l'autoportrait parce que c'est tellement important et présent et fréquent dans la photographie que ça nécessite une chronique en entier. Alors il y a eu Nadar, Ravdonk, Étas, Leibovitz et tant de photographes qui ont fait des portraits. Ce soir, je vais vous en présenter trois. Alors ceux que j'ai choisis, pourquoi je les ai choisis? Parce que leur travail offre des clés pour comprendre comment faire du portrait et comment comprendre un petit peu le monde qui nous entoure.
Et quand on parle de photographie et de photographie de portrait, il serait dommage, tu l'as mentionné un petit peu en introduction, de ne pas s'intéresser à la photographie africaine.
Oui, celle-ci a pourtant une part non négligeable. J'ai tout à l'heure cité, enfin, je viens de citer Seydou Keita, un Malien, mais je vais parler plus en détail d'un autre photographe malien qui est Malik Sidibé. Alors, Malik Sidibé, donc on l'a à l'écran, c'est un portrait de lui, un autoportrait. Il est né en 1936 à Soloba, au Mali, et il décède de 70 ans plus tard, en 2016, à Bamako, la capitale. Il a d'abord été cultivateur, pasteur, et en 1955, il entre dans un studio photographique tenu par un Français. Il faut savoir que le Mali était français à l'époque, où il apprend la photographie. En 1962, à l'indépendance du Mali, il s'installe dans un quartier populaire de Bamako, où il va rester toute sa vie. Et il va tout d'abord photographier la vie bamakoise, la vie nocturne bamakoise. On peut avoir un exemple à l'écran, avec notamment des soirées dansantes, pardon. Il chronique alors un Mali qui est en pleine accession à l'indépendance, où tout semble permis, le pays s'est libéré du joug français, on danse, on chante, on fait la fête, on danse le twist notamment, et on retrouve sur ces photos des codes qui sont très européens, hein, on porte des vêtements très occidentaux, on danse le twist. Ces photos sont en fait un témoignage d'une époque, et c'est aussi ce qui fait leur très grande force. On surnommera donc Malik Sidibé l'œil de Bamako. Et à partir des années 70, il va tourner sa pratique vers quelque chose de beaucoup plus studio, comme ce qu'on a à l'écran. Ses portraits ont quelque chose, quand on regarde, de très moderne, hein, dans les tenues notamment. Alors, il faut replacer dans l'époque, hein, dans les années 70-80. On est très très loin des clichés qu'on accole en général à l'Afrique. Hein. Et surtout, ce qui, moi, me paraît fondamental dans la pratique photographique de Malik Sidibé, c'est qu'il photographie l'endroit où il vit et des gens qu'il côtoie tous les jours. Et je pense que c'est une des choses fondamentales quand on fait du portrait, c'est de créer une proximité, pardon, avec ses modèles. Hein. Cette proximité, elle va permettre de réaliser des beaux portraits, des portraits pleins de vie. Et j'engage les photographes qui veulent travailler le portrait à justement créer un lien avec leur modèle, à créer une forme de connivence, à prendre du temps. Hein, c'est quelque chose d'être long et c'est bah, ce qu'a fait Sidibé toute sa vie. C'est un des premiers photographes africains qui recevra les honneurs des musées européens et américains avant son décès.
Effectivement, tu as raison et c'est intéressant d'appuyer ce point de photographier d'abord là où on vit et les gens qu'on côtoie tous les jours. Le deuxième photographe que tu nous présentes est pour moi une découverte. Donc merci, quelle découverte, parce que je suis très heureux que tu puisses aujourd'hui nous en parler. Il s'agit de Pierre Gonnord.
Oui, alors Pierre Gonnord est un photographe français. Il est né en 1963 à Cholet. Rien ne le destine initialement à la photographie. Et puis son frère décède subitement. Et Pierre Gonnord, qui travaille dans la finance, décide de tout quitter et de se lancer comme photographe, enfin, de vivre de la photographie, pardon. Et à partir de 1988, il décide de vivre en Espagne. Alors Pierre Gonnord, il va choisir de s'intéresser à des individus en marge. En marge de la société, on va dire. On lui doit des séries notamment sur les Yakuza, les mafieux japonais, la photo qu'on a à l'écran. Et ce qui sera très intéressant dans le travail de Pierre Gonnor, c'est la façon dont il met en scène ses modèles. Il utilise un fond noir, des éclairages très doux, très délicats, un traitement qui donne la sensation, l'impression que ces images sont presque des portraits classiques. Il travaille à la chambre, Pierre Gonnor, et c'est ce qui va définir son style. Ainsi, il va s'attarder, en voyageant, en vivant à l'étranger, à rencontrer des gens qui, finalement, sont très en marge, et ce sont les communautés gitanes d'Espagne et du Portugal, avec lesquelles il va même vivre. Là aussi, cette proximité, ce quotidien, ça permet de créer une confiance avec les sujets, de rentrer en lien avec eux.
Ouais. Là, on voit une image justement qui est impressionnante, déjà, quel regard. Mais en plus, il y a une anecdote sur ce portrait d'une femme gitane qui est assez savoureuse.
Oui, alors cette femme, elle s'appelle Maria, et effectivement, j'ai vu le tirage en vrai, c'est extrêmement impressionnant, c'est un grand, grand tirage. Et Maria est la femme du chef d'une communauté gitane du sud de l'Espagne, d'Andalousie, et elle refuse que Pierre la prenne en photo, elle ne veut pas. Et dans cette communauté, elle a une concurrente, on va dire, une autre femme qui est l'épouse d'un autre chef de clan, et l'autre femme accepte. Et le jour où Maria apprend que Pierre Gonnor a pu photographier cette autre femme, elle va voir Pierre et lui dit « Tu me prends en photo maintenant. » Voilà.
Et on lui dit pas non, j'imagine.
Et non, voilà, quand on voit le regard d'Adam, on dit pas non. Enfin, c'est saisissant, c'est vraiment saisissant. Mais Pierre, il va photographier aussi des mineurs des Asturies, c'est des mines de charbon d'Espagne qui peu à peu ferment, et il les prend au moment où ils ressortent du puits de mine, en fait, à la remontée, en fait.
Ouais. Et effectivement, tu l'as dit, il y a une beauté qui est très classique dans son travail. On a l'impression d'être devant des tableaux. Moi, j'ai presque l'impression parfois de portrait Renaissance avec ces images.
Oui, c'est tout à fait ça. On est proche du portrait Renaissance, mais avec une différence fondamentale quand même, c'est que les toiles de la Renaissance représentaient dans le portrait des personnes relativement aisées, souvent de la noblesse, parfois de la bourgeoisie. Or, Pierre Gonnor s'intéresse à des gens qui sont plutôt, j'allais pas dire des marginaux, mais des gens un peu en rupture, ou plutôt pauvres. Les mineurs des Asturies, c'est pas ce qu'il y a de plus riche. Les gitans d'Andalousie ou du sud du Portugal, c'est des gens, des communautés, qui vivent difficilement. Et donc, j'aime beaucoup ce contraste, moi, entre ce traitement très, comme tu le dis, Renaissance, et les gens qui sont représentés. Il y a un vrai décalage. Et donc, pour moi, il y a quelque chose, je trouve, de politique dans ce que fait Pierre Gonnor, c'est-à-dire de mettre en avant ces gens qui, finalement, sont, j'aime pas le mot marginaux, mais sont un peu à part dans la société.
Ouais, là, ça peut être pas des déclassés, mais effectivement, c'est pas les gens que l'on représente le plus souvent. Non. Deuxième photographe, donc Pierre Gonnor, il y en a un troisième, qui, je crois, en plus, tient une place particulière pour toi, il s'agit de Anders Petersen.
Oui, Anders Petersen, c'est un photographe extrêmement important dans ma pratique photo et puis dans mon envie d'écrire sur les livres photo. Il a écrit un livre qui s'appelle Café Leibniz, et son regard de photographe a déclenché beaucoup de choses chez moi. Alors, pendant 3 ans, de 1967 à 1970, Petersen, il est suédois, il s'est installé à Hambourg, en Allemagne. Et il allait dans un café très populaire, le café Leibniz, ce qu'on appellerait un bistrot en France. Alors, ce n'est pas un portraitiste pur et dur, Petersen. Ce n'est pas quelqu'un de studio, par exemple. Mais pour moi, ce livre, Café Leibniz, c'est vraiment une bible pour qui veut se lancer dans la photographie de portrait. On trouve des gens qui sont des personnages très hauts en couleur, plus ou moins marginaux, heureux, malheureux. Mais ce qui fait la force pour moi du travail de Petersen, au-delà de son noir et blanc qui est très très célèbre, c'est toute l'humanité et la simplicité qui se dégage de ses photographies. Les gens ici sont très naturels, parce que, comme chez Sidi Bé, par exemple, et pour une raison très simple, c'est que Petersen ne vole pas les images. En fait, Petersen, les premières fois où il arrivait dans ce bar, il avait un Leica, il n'a pas pris de photo, il a posé son Leica sur le comptoir, il est allé aux toilettes. Et en fait, en revenant, il y avait des gens qui faisaient des photos avec son Leica. Alors, moi, je passe le type de photos qui pouvaient être faites. Et il les a laissés faire. Et en fait, en laissant cette confiance, il a gagné la confiance des gens et il a pu travailler avec eux. Et je pense que c'est une chose importante de gagner la confiance des gens qui ont fait des photos. Je voulais terminer par une toute petite anecdote. Une des photos de Café Leibniz sert de photographie de couverture à l'album Rain Dog de Tom Waits.